VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. On commence par la santé. Au Nigeria, le Centre pour le contrôle des maladies a confirmé qu'au moins 20 personnes sont décédées des suites d'une épidémie de fièvre jaune dans le sud-est du pays. D'autres cas ont été également signalés dans plusieurs États le mois dernier au Nigeria. Les précisions de notre correspondant Gilbert Samba.
Le chef du centre de contrôle des maladies, Chike Iwekezu, a révélé dans un communiqué que l'épidémie n'a pas été détectée à temps par les autorités locales, causant ainsi la mort de plusieurs personnes entre mai et début août 2019 dans l'état d'Ebonyi dans le sud-est. Selon lui, l'équipe épidémiologique de l'état réagit suite à trop nouveaux cas testés positifs au virus de la fièvre jaune dans le laboratoire d'analyse. Depuis 2017, le Nigeria a enregistré des cas de fièvre jaune dans tous les états du pays. Du 1er janvier au 31 juillet de cette année, 78 infections ont été confirmées en laboratoire. La maladie, qui peut être prévenue par la vaccination, se transmet par la piqûre des moustiques infectés. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance, demandant aux Nigériens de garder leur environnement propre afin d'empêcher la propagation de la maladie.
En République démocratique du Congo, le professeur Jean-Jacques Muyembe, spécialiste du virus Ebola, a pris la tête du comité d'experts chargé de la riposte au mois de juillet en visite ce week-end à Beni, épicentre de cette épidémie qui a déjà fait plus de 1800 morts. Le professeur Muyembe a estimé que des ajustements de la stratégie sont nécessaires dans la région afin de renforcer l'implication des communautés. Reportage de notre correspondance Patricia Houillon.
Le professeur Jean-Jacques Muyembe est l'un des hommes qui ont permis la découverte du virus Ebola. La République démocratique du Congo a déjà connu plusieurs épidémies, mais elles n'ont jamais pris l'ampleur de celle qui sévit actuellement à l'est du pays.
Les 9 premières épidémies que nous avons eues jusqu'à présent, la plupart c'était dans des régions reculées, il n'y avait pas tellement de mouvement de population. Ici, ce climat d'insécurité ne permet pas à nos équipes de suivre les contacts et également c'est une population traumatisée par plusieurs années de guerre. Donc, ils n'acceptent pas facilement.
Un contexte différent qui demande donc des solutions adaptées et une approche pas seulement médicale.
Le problème d'Ebola, ce n'est pas seulement le problème de santé publique. C'est comme ça que nous voulons rendre ça multisectoriel. Nous allons beaucoup utiliser les membres de la société civile, les leaders d'opinion, les prêtres, les pasteurs. En même temps, nous voulons utiliser le plus possible des locaux et faire l'ancrage de la lutte dans les systèmes de santé actuels.
Jean-Jacques Muyembe pense aussi que l'introduction d'un deuxième vaccin expérimental, pourtant controversé, pourrait aider à stopper la chaîne de transmission.
C'est une nécessité. Nous combattons l'épidémie avec le vaccin RVSV de Merck. Mais si nous pensons à prévenir dans les régions où l'épidémie n'est pas encore arrivée, ce serait mieux donc d'utiliser ce deuxième vaccin. Cette maladie n'a pas encore de vaccin homologué, n'a pas encore de médicaments homologués. Donc nous devons essayer tout ce que nous avons. Et le vaccin Johnson & Johnson, ça donne de bons résultats, semble-t-il, comme prévention.
Mais pour le professeur, la priorité est de permettre aux communautés de comprendre et de s'approprier la riposte, la seule approche selon lui pour que celle-ci puisse être efficace. À Beni, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Au Tchad, les militants du parti Les Transformateurs qui ont initié une parade ce dimanche à la date commémoratif du 59e anniversaire du pays, de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale ont été gazés par des éléments du groupement mobile d'intervention de la police. André Kodmazinga, compte rendu.
Les militants du parti Les Transformateurs ont un mauvais souvenir de ce 59e anniversaire de l'indépendance du Tchad. En voulant donner un cachet particulier à cette journée à travers une opération Un Tchadien, un drapeau, où plus de 2000 drapeaux ont été réunis pour distribuer aux citoyens, ces militants ont été violemment dispersés à l'aide de gaz lacrymogène par les éléments de la police nationale. Le président de la dite formation politique Suisse Masra explique sa mésaventure.
On a retenu à peu près 5 cités qui sont sortis du véhicule en train de distribuer les drapeaux, et du coup ils ont commencé à tirer. C'est l'un des jeunes qui a pris beaucoup de gaz, là il est tombé. Mes agents de sécurité m'ont remis dans la voiture en précipitation. On a quitté. Donc voilà comment on assure la sécurité des paisibles citoyens qui chantent l'hymne national, qui ont les drapeaux du pays entre leurs mains.
Un caméraman d'une télévision privée qui suivait le mouvement des transformateurs a été lui aussi violemment brutalisé et ses matériels de reportage arrachés par la police nationale. En juin dernier, lors du lancement officiel du parti, le véhicule du président Succès Masra qui était dans le cortège déjà été visé et lui-même blessé par ces éclats. Une plainte a été déposée contre les responsables de la police et l'affaire est encore pendante devant la justice. André Kodmadingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
Deux tirs de roquettes ont visé dimanche l'aéroport de Mitiga, le seul encore fonctionnel de la capitale libyenne, en violation d'une trêve temporaire entre les belligérants qui s'affrontent depuis plus de 4 mois autour de Tripoli. Les belligérants se sont mutuellement accusés d'avoir violé la trêve réclamée par l'ONU durant l'Aïd al-Adha, célébration religieuse qui a commencé dimanche et qui se poursuit donc jusqu'à demain mardi en Libye. Dans un communiqué commun publié dans la soirée hier, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont invité de nouveau toutes les parties à œuvrer sans délai en faveur d'un accord de cessez-le-feu. Le président comorien Azali Assoumani, accusé par l'opposition de dérive autoritaire, a gracié samedi les 4 dernières personnes qui avaient été condamnées en décembre 2018 pour complot à main. Ces 4 hommes qui avaient été condamnés à la perpétuité par la Cour de sûreté de l'État avaient déjà vu leur peine ramenée à 20 ans de prison 3 jours après l'investiture d'Azali Assoumani, réélu à l'issue d'un scrutin très contesté par l'opposition et les observateurs internationaux.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le groupe État islamique a promis dimanche d'intensifier son combat contre la coalition internationale dirigée par les États-Unis et ses alliés kurdes en Syrie. C'est ce qu'il a dit dans la 2e vidéo de ce genre postée sur son organe de propagande depuis la chute de son califat autoproclamé en mars. Ces derniers mois, l'organisation djihadiste a mené une série d'attentats visant notamment les forces kurdes dans ses ex-fiefs dans le nord et le nord-est de la Syrie. Malgré leur défaite, des combattants du groupe et des cellules dormantes sont encore disséminés dans plusieurs régions du pays. Des affrontements entre policiers israéliens et fidèles sur l'esplanade des mosquées, au lieu de tensions à Jérusalem, ont fait des dizaines de blessés palestiniens dimanche, jour d'importantes commémorations juives et musulmanes. Le Croissant Rouge palestinien a fait état de 61 blessés, dont une quinzaine ont été hospitalisés. La police a dénombré 4 blessés dans ses rangs et fait état de 7 arrestations. Après les violences de la semaine dernière, la fête musulmane d'Al-Adha semble avoir calmé les esprits dans le sud du Yémen, où le chef séparatiste Haïdarus al-Zubaydi s'est dit prêt à respecter un cessez-le-feu et à participer à une réunion de paix en Arabie Saoudite. Aucun combat n'a été signalé ces dernières 24 heures dans la grande ville méridionale d'Aden, théâtre d'affrontements meurtriers entre combattants séparatistes et forces gouvernementales. Et M. Zubaydi, président du Conseil de transition du Sud, a adopté un ton plutôt conciliant dimanche soir. Le gouvernement chinois a encore accru aujourd'hui sa dénonciation des manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong, disant voir des signes de terrorisme derrière la contestation violente du pouvoir en place. Par ailleurs, l'aéroport de Hong Kong a annoncé l'annulation pour ce jour de tous les vols au départ et à l'arrivée en raison de l'ampleur d'une manifestation dans son principal terminal. 2 ministres français ont réclamé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête en France concernant l'affaire Jeffrey Epstein, financier américain qui s'est suicidé en prison alors qu'il était poursuivi pour agression sexuelle présumée sur mineurs. La mort en prison de Jeffrey Epstein, 66 ans, accusé d'avoir fait venir des dizaines de mineurs dans des luxueuses résidences, notamment à New York et en Floride, pour des relations sexuelles forcées, a immédiatement donné lieu à plusieurs théories du complot et à un scandale aux États-Unis, certains croyant plus à un meurtre qu'à un suicide en raison de ses nombreuses connexions dans les cercles du pouvoir. Une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne risquerait d'aggraver la pénurie de médicaments déjà sensibles dans plusieurs pays d'Europe, avertissent des professionnels de la santé à l'approche de la date butoir du 31 octobre. La Fédération patronale britannique de l'alimentation et des boissons avait déjà mis en garde la semaine dernière contre de possibles pénuries de produits frais en cas de Brexit dû. Les groupes pharmaceutiques ont exprimé des inquiétudes similaires et réservé d'ores et déjà des capacités de fret aérien pour acheminer des médicaments si nécessaire. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal à tout à l'heure. Et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Toyota Imé.